OK, on va continuer notre série qu'on fait sur la providence. On est rendu au sermon 8 de 10. Ce qui arrive, c'est que c'est une série que j'avais déjà donnée, mais la plupart des sermons sont plus longs que pour une demi-heure. Alors, vu qu'ici, la coutume, on établit la coutume que le mercredi, c'est à peu près environ une demi-heure. Ça fait que la leçon va se donner probablement cette semaine et la semaine prochaine. Alors, le titre de la leçon de cette semaine, c'est tout simplement La Providence, méditons sur elle. On va voir que Dieu nous dit qu'on a le devoir de méditer sur la Providence. La Providence, c'est tout simplement l'ensemble des choses qui nous arrivent au cours d'une journée, durant toute notre vie. Dans le fond, c'est nos circonstances. Dieu contrôle l'ensemble de ces choses-là et par les circonstances, il nous parle. Et Dieu veut, on va voir des versets tantôt, Dieu veut qu'on médite sur sa providence. Pourquoi tu nous as envoyé ça? Et c'est important qu'on le fasse. La deuxième chose, on va regarder comment le faire, comment méditer sur la providence. Et la troisième chose qu'on va regarder, c'est des quelques considérations pour bien méditer la providence. Alors, la première chose qu'on va regarder aujourd'hui, c'est que c'est notre devoir de méditer sur la providence parce que Dieu a expressément commandé de le faire, tant dans ses miséricordes que dans ses jugements, que dans ses corrections. Si on regarde nos vies, on a tout ça dans nos vies. Il n'y en a pas un qui n'a pas eu ça dans sa vie quelque part. Des miséricordes, on en a eu plein, mais on ne réfléchit pas souvent. Bon, quand j'ai eu telle circonstance, tu as eu miséricorde sur moi, ça aurait pu dégénérer, ça aurait pu. Mais Dieu veut qu'on le fasse. Alors Dieu lui-même nous le commande. Par exemple, dans Michée, chapitre 6, verset 5, ça dit: Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Oui, il dit, rappelle-toi afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Et là, il parle de circonstances. Les circonstances, c'était que Balaam lui avait demandé de maudire le peuple. Et le Seigneur a eu des miséricordes dans ces occasions-là. Puis c'est ça qu'il leur dit, mon peuple, rappelle-toi. Alors, c'est Dieu lui-même qui nous le demande. Regardons aussi Ésaïe, chapitre 5, versets 12 et 13. La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin. Mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel et ils ne voient point le travail de ses mains. C'est pourquoi mon peuple sera soudain amené captif, sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera desséchée par la soif. Oui, ça dit, ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel. Il parle de qui, là? Il parle-tu des croyants ou des non-croyants? Il parle à des croyants. Il parle de certains croyants qu'on prend pas garde à ce que Dieu fait dans nos vies. Et il dit, il ne voit point le travail de ses mains. Les circonstances, c'est le travail de ses mains. Plus on en prend conscience, on devrait dire, si c'est une miséricorde, merci Seigneur. Si c'est une correction, encore une fois, merci Seigneur, parce qu'on en a besoin. Et si c'est un jugement, encore une fois, merci Seigneur. Mais il faut parfois ramener ces choses-là dans notre mémoire. Donc, le premier point qu'on a regardé, c'est que Dieu lui-même nous le commande. Le deuxième, c'est parce que négliger de le faire est un péché. Psaume 28, versets 4 et 5. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent, car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains, qu'il les renverse et ne les relève point. Voyez-vous, il demande des jugements parce qu'il dit, ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel. Troisièmement, donc, Dieu lui-même nous le commande. Deuxièmement, parce que négliger de le faire est un péché. On néglige tout ça un petit peu dans nos vies? Je pense que oui, la plupart de nous. Troisièmement, parce que son absence implique de graves conséquences. Alors, l'absence de méditation, ça prive Dieu de la louange qui lui est due. Si on méditait vraiment sur chacun des choses que Dieu permet dans nos vies, qu'on voyait, on peut pas savoir toutes les raisons pour lesquelles Dieu nous envoie des choses, mais on peut savoir au moins qu'il le fait toujours pour notre plus grand bien. Alors, si on ne le fait pas, on prive Dieu de la louange qui lui est due, parce que si on le faisait, il y aurait de la louange qui monterait. Et la louange lui est due. Et si on ne le fait pas, on pêche. Alors, une étude attentive, par exemple, du psaume 107, raconte les exploits de Dieu envers son peuple. Il les délivre de leurs difficultés, il brise leur esclavage, il les soigne dans leurs maladies, il les protège dans les tempêtes, il les nourrit au temps de la famine, il abaisse les orgueilleux, il élève les humbles. Alors, si vous prenez les quatre, les six, cinq, six grandes idées que je viens de nommer, si vous prenez le psaume 107, vous l'analyseriez d'aplomb, vous verriez que toutes ces choses-là sont dedans. Alors, le psaume 107 au verset 43, c'est le verset 43 qui se trouve à être le verset de conclusion, qui est un verset d'avertissement. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Alors, si on regarde l'ensemble des choses, il délivre des difficultés, il brise l'esclavage, il soigne les maladies, il protège des tempêtes, il nourrit en temps de famine, il abaisse les orgueilleux, il élève les humbles. Si le peuple de Dieu se méditerait sur toutes chacune de ces choses-là, il y aurait des louanges qui monteraient vers Dieu. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. L'absence aussi de méditation nourrit l'ingratitude envers les bontés de Dieu. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, ma mère, elle m'a fait des bontés. Je suis assez vieux aujourd'hui pour les voir. Dans le temps, elle faisait des bontés, puis moi, c'est normal, mais c'est loin d'être normal. Elle faisait plein de choses par amour pour moi. Puis je ne les voyais même pas. Mais pensez-vous que si on est capable de le faire envers nos parents, ou nos amis, ou notre entourage, qu'on n'est pas capable de le faire envers Dieu aussi? Dieu nous fait un paquet de bontés et on ne tient pas compte de ces choses-là. Alors, l'absence nourrit l'ingratitude. Matthieu 16, versets 8 à 10. Jésus, l'ayant connu, dit: Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5 000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains des 4 000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportées? Voyez-vous? Quand Jésus parle à son peuple, il dit gens sans intelligence. Est-ce qu'on se l'applique un petit peu à nous-mêmes aussi en même temps? Parce qu'on n'est pas plus fin que les apôtres, ça c'est certain, là. Ézéchiel 23, verset 35. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que tu m'as oublié, parce que tu m'as rejeté derrière ton dos, porte donc aussi la peine de tes crimes et de tes prostitutions. Troisième raison, c'est que l'absence de méditation sur les providences de Dieu offense Dieu quand il s'approche de nous. Malachie, chapitre 3, verset 5. Oui, il dit que Dieu nous envoie des fois des jugements. Il dit: Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger. Et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Je m'approcherai de vous pour vous juger, puis dire les raisons pour lesquelles il va le faire. Quelque part, ça devrait nous faire réfléchir un peu. Psaume 145, verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Sophonie, chapitre 3, verset 2. Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix. Elle n'a point égard à la correction. Elle ne se confie pas en l'Éternel. Elle ne s'approche pas de son Dieu. Quand Dieu nous corrige, il dit, elle n'a point égard à la correction. Si Dieu nous corrige, puis on ne tient pas compte qu'il nous a corrigés, on va retomber dans le même péché. Quand vous regardez Abraham, justement, je tenterai de préparer le sermon la semaine prochaine. Abraham, il a fait des erreurs. À un moment donné, il a dit, à Pharaon, ma femme, c'est pas ma femme, c'est ma soeur. Pas bien, bien plus longtemps après, il aurait dû avoir sa leçon, là. Pas bien, bien longtemps après, là, c'est avec Abimélec. Il a fait encore le même mensonge, encore la même affaire. S'il était le père des croyants, puis il est capable de faire de pareilles choses, de ne pas avoir compris une correction que Dieu t'envoie, nous, on est-tu mieux que lui? Il faut tenir compte des corrections que Dieu nous envoie pour ne pas le répéter plus tard. Mais on peut faire ça uniquement en méditant sur les circonstances que Dieu nous envoie. Deuxième point qu'on va regarder, c'est comment le faire, comment méditer sur la providence. Maintenant, cette méditation-là, ça doit avoir une qualité. On se doit d'éviter deux choses. La superficialité. On est tellement habitué de faire les choses en surface puis qu'on ne va pas vraiment en profondeur. Et la paresse. Oh, c'est bien beau ce que tu dis. Mais quand est-ce que tu vas le faire? Commences-tu à jouer? Notre problème, c'est que souvent, c'est pas ce qu'on ne sait pas. On le sait, mais on ne le fait pas. Alors, c'est ça qui apporte des difficultés. Alors, la qualité de la méditation, on se devrait de le faire, ce qu'on pourrait appeler extensivement. Autrement dit, extensivement, ça veut dire reculer le plus loin possible dans ta vie passée. Et quand, comme moi, dans mon cas, quand je ne dors pas, là, c'est un bon moment pour méditer. Il faudrait peut-être que ça me permette que je dorme moins. Parce que quand on ne dort pas souvent, quand tu es rendu à un certain âge, tu dis, bon, tu recommences, tu commences à l'école. Là, on dirait que tous les événements qui se sont passés dans ta vie se déroulent tranquillement. Là, tu te souviens de certaines choses très douloureuses, tu te souviens de certaines d'autres choses qui étaient... Mais ça, là, c'est bourré d'enseignements. Bourré littéralement d'enseignements. On se devrait de s'arrêter. Pas nécessairement faire ça comme d'un bout, là, essayer de... Comme ça, des 11 ans, moi, c'est long. Disons que même si je me souviendrais, disons, à partir de 15 ans, jusqu'à aujourd'hui, ça fait long. Mais disons, essayer juste de prendre, par exemple, la période où j'allais à l'école. De voir qu'est-ce que Dieu faisait. Ça. Réfléchir à des petites choses qu'il a permis, qu'il a évité. C'est bon qu'on fasse ça. Parce que c'est Dieu qui est en contrôle autant au début qu'il l'est aujourd'hui. Le livre que je me suis servi pour bâtir cet ensemble de leçons-là sur la Providence, ça s'appelle « The Mystery of Providence », puis c'est le puritain John Flavel qui a écrit ça. Et il écrivait une phrase à la page 118 du livre que je trouvais tellement intéressante, que j'ai dit « je vais la noter ». Ça disait, lui disait, « Laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas sur la terre une histoire plus intéressante et plus agréable que celle de votre propre vie. » Intéressant. Psaume 77, versets 11 à 12. « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres. Je raconterai tes hauts faits. » Alors, si on fait une révision de façon assez, le plus détaillée qu'on peut, de notre vie passée, on va découvrir à beaucoup d'endroits la fraîcheur des miséricordes que Dieu nous a accordées, sa fidélité. On va redécouvrir son amour à maintes et maintes et maintes et maintes reprises dans nos vies. Avant même qu'on ait parcouru la moitié de toutes les conditions qu'il nous a faites vivre, notre cœur va littéralement fondre en observant la sagesse des providences de Dieu. Quand on regarde des fois, tiens, moi j'ai été sauvé à 33 ans, le petit bout que j'ai fait entre 13 et 33, là, ouh, il y avait de la houle, pas mal. À quelque part, de réfléchir sur ce que Dieu t'a fait vivre, c'est intéressant, non seulement c'est intéressant, mais c'est bienfaisant pour se souvenir de comment Dieu agit dans nos vies. Si on n'est pas ému, puis qu'on regarde toutes nos vies avec les détails, qu'on voit la main de Dieu là-dedans, on n'est pas ému quelque part, c'est qu'on a le cœur vraiment dur. Parce que Dieu agit énormément de fois dans nos vies. Jérémie chapitre 3, verset 4. Ne crieras-tu point désormais vers moi, mon Père? Tu es le conducteur de ma jeunesse. Non seulement la jeunesse, on le sait, Dieu, il n'est pas le conducteur juste de ta jeunesse, il est le conducteur de l'ensemble de ta vie. Donc, on se doit de faire la qualité de la méditation, on se doit de le faire, on se doit de le faire extensivement. Ceux qui connaissent, je ne sais pas s'ils connaissent le commentateur Matthew Henry. Matthew Henry, lui, à un moment donné, quand il est venu au Seigneur, là, il a fait cet exercice-là à partir du début de sa vie, puis il écrit ça en début de son commentaire, là. Pascal Denou l'a fait. En lisant ça lui donnait l'idée de faire ça. Essaye de reculer le plus loin possible, puis regarde comment Dieu a travaillé dans ta vie. Et ça nous amène à nous rapprocher de Dieu. Donc, le faire extensivement, c'est sur le long terme, et le faire aussi intensément. Alors, intensément, on évite la superficialité. Comme le métal coule au fond de l'eau, de même que votre méditation vous amène au fond des choses. Psaume 111, versets 2 et 3. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Moi, il y a des bouts dans ma vie, si tu m'aurais dit, ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie, c'est splendeur et c'est magnificence. Je m'aurais dit, là, pas sûr, là. Pourtant, Dieu se sert autant des choses qui t'ont fait souffrir, peut-être même davantage des choses qui te sont faites souffrir que des choses que tu trouves intéressantes. Il arrive que nous les découvrions, les choses que Dieu nous envoie de façon spontanée. Il faut alors imiter le serviteur d'Élie qui retourna 7 fois pour voir la pluie arriver. Aujourd'hui, si vous vous souvenez de ce passage-là. 1 Roi, chapitre 18, versets 41-45. Et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Achab monta pour manger, pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois, retourne. Il disait, va voir. L'autre revient, il n'y a rien. Retourne. Autrement dit, l'idée, c'est d'intensifier notre manière de réfléchir sur les choses que Dieu fait. Et à la verset 44, à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, dis à Achab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jezréel. Regardez, autrement dit, intensivement, ça veut dire regarder. Et regardez encore. Il a dit 7 fois. Retourne. Pense-y encore. Pense-y encore. Alors, si on le fait, on va découvrir les merveilles que Dieu fait et la gloire et la sagesse qu'il y a dans nos vies. Maintenant, on va regarder l'autre point, les choses qui se doivent d'être méditées. Leur opportunité. Autrement dit, Dieu permet que les choses t'arrivent à propos et au moment, au bon moment. Prenons par exemple Ésaïe 41, versets 17 et 18. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Voyez-vous, l'opportunité. Ça veut dire qu'au moment où tu en as besoin, c'est là qu'il l'envoie. C'est sûr, quand tu dis, tu vas changer le désert en étang, quand tu es dans le désert, tu as hâte d'avoir de l'eau. Puis il dit que c'est là qu'il va te l'envoyer. Fait que des fois, dans notre vie, on a des déserts, c'est sec. Le Seigneur envoie ses bénédictions là. Leur adaptation personnelle. Le Seigneur envoie des circonstances, mais il n'envoie pas les mêmes aux mêmes personnes parce qu'on n'est pas fait pareil, on n'a pas la même expérience, on n'a pas la même âge. Mais le Seigneur sait adapter ces choses individuellement. Ésaïe 26, verset 20-21. « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu et ne couvrira plus les meurtres. » Psaume 33, versets 18 et 19. « Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. » Si tu es au milieu d'une famine puis que l'Éternel permet que tu passes à travers, est-ce que ce n'est pas un exemple qui intervient au bon moment? Psaume 91, versets 5 à 8. Ça, c'est un psaume, je me souviens d'avoir déjà entendu des histoires là-dedans, psaume 91. C'est autrement dit, le Seigneur est en train de te dire, s'il y aurait une guerre, là, comme les anciennes guerres, Dieu pourrait permettre que tu traverses toute la guerre, les flèches te passent à côté, les violences se font à côté de toi, puis toi, tu passes à travers. C'est un psaume qui a apparemment beaucoup aidé les personnes qui ont été dans des circonstances, qui étaient comme découragées de vivre dans des circonstances de violence, de difficulté. Parce que le Seigneur, il dit ici, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras les rétributions des méchants. Un psaume merveilleux pour montrer que l'Éternel est capable de nous faire traverser des circonstances, qu'on est sûr qu'on y laissera nos vies. Puis l'Éternel permet que tu vois ce qui se passe. Quand il dit, tu verras la rétribution des méchants, mais il permet que toi, comme juste, tu passes à travers. Maintenant, on va regarder les instruments que Dieu utilise. Vous vous souvenez de l'histoire de Jonathan puis l'histoire de David. Jonathan aimait David et à cause du fait qu'il aimait David, il avait averti que son père voulait lui envoyer une lance. Il voulait le tuer, le clouer au mur, comme on dit. Alors Dieu utilise des instruments pour arriver à ses fins dans nos vies. 1 Samuel 18, verset 3, là, il utilise Jonathan qui protège David du meurtre que son père voulait faire contre lui. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Les instruments, Dieu permet aussi l'appréciation par des étrangers. Marc 6, verset 4. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Dieu permet aussi des fois que ce soit les barbares. Acte 18, verset 2. « Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome, il se lia avec eux. » Alors, l'Éternel a utilisé ces choses-là. Genèse 50, verset 20, la fameuse histoire de Joseph avec ses frères, que le Seigneur utilise la méchanceté des frères de Joseph pour faire traverser Joseph tous les problèmes qu'il a vécu. Alors, le Seigneur s'est servi de la méchanceté des hommes pour en faire sortir du bien. Alors, la même chose peut nous arriver à nous. Dieu peut permettre que des méchants nous fassent du trouble, mais que la fin ultime, la conclusion ultime de la chose qui nous fait traverser, ça nous amène des choses dans nos vies. Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Autre chose qu'on va regarder aussi, c'est leur intentionnalité et leur portée. Romains 8, 28, ça, on le sait tout par cœur, on l'a entendu des milliers de fois. On l'a entendu, on pense qu'on le comprend, mais si on le comprendrait vraiment, on chiolerait à jamais. Ça fait que moi, vu que j'entends pas souvent du monde pas chioler, je suis le premier à chioler, et on entend autour de nous que du chiolage, et même dans le milieu chrétien. Pourtant, le verset est d'une clarté limpide. Moi, je me dis que ce verset-là, bien compris, ça voudrait dire que tu ne chiolerais plus jamais, 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 jamais. Pas t'élever aujourd'hui. « Oh non, il mouille encore aujourd'hui. Oh non, il neige bien trop aujourd'hui. » On est-tu de même ou j'en ai pas de même? On chiole tout le temps. Dieu est au contrôle de toutes choses. Quand on chiole contre ses décrets. On chiole contre lui, dans le fond. On ne dit pas à lui, là. Mais c'est ça quand même qu'on fait. Romains 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce qu'on aime Dieu? Est-ce qu'il y a des choses qui ne concourent pas à notre bien? C'est ça que ça dit, toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, on va arrêter là pour cette semaine et on continuera la balance la semaine prochaine. La semaine dernière, ça ira mal.